Je vais donner la parole à Martine. Martine Cohen.
Oui, bonjour à tous. On m'entend bien là, c'est bon? Oui. Voilà. Alors
non,
mon propos.
Non, non.
On l'entend bien. Je vais peut-être prendre le. Je vais le prendre à la main. Là, c'est bon? Oui. Voilà. Donc je voulais répondre. Parler d'une question, puisque on entend beaucoup parler de fin du franco-judaïsme aujourd'hui. J'ai voulu y mettre un point d'interrogation, laisser ouvert ce point d'interrogation d'ailleurs. Et donc je voudrais développer ici deux idées centrales dans mon propos. Première idée centrale, c'est le fait qu'il y a eu, dans les deux siècles d'histoire du judaïsme français moderne, je veux dire d'après l'émancipation, plusieurs formes ou strates du franco-judaïsme, et qu'il ne faut donc pas confondre la première de ces formes, ce qu'on appelle l'israélitisme du XIXe siècle, avec celles qui ont suivi en s'en distinguant, et même en rompant avec cet israélitisme depuis les années 1980. Deuxième idée centrale que je vais développer, la rupture avec l'israélitisme dans les années 1980 n'a pas été une rupture avec le franco-judaïsme, puisque celui-ci peut revêtir plusieurs formes, comme je le prétends. Mais qu'en est-il aujourd'hui? S'il a disparu ou s'est affaibli, les facteurs explicatifs sont pour partie spécifiques aux transformations récentes du judaïsme français et pour partie aussi liés aux évolutions de l'ensemble de la société française. Pourtant, on pourrait aussi trouver des arguments pour montrer que ce franco-judaïsme existe toujours, recomposé d'une certaine manière, dans certains secteurs de la population juive de France, et peut-être d'ailleurs dans la majorité silencieuse. Resterait à évaluer la résultante de ces dynamiques contradictoires, affaiblissement d'un côté, recomposition de l'autre, et à se poser la question, comment se fait-il que certains acteurs juifs engagés, qui connaissent le monde juif organisé très bien, répondent d'emblée à la question « Y a-t-il un franco-judaïsme ?» répondent par la négative. Voilà pourquoi il me semble, comme il est difficile de voir quelle est la résultante, il me semble nécessaire de garder le point d'interrogation dans le titre. Je traiterai le sujet en trois parties. Dans une première partie, après avoir défini ce que j'entends par franco-judaïsme, je donnerai quelques éléments très brefs, de l'histoire de quelques-unes de ces formes depuis l'israélitisme du XIXe siècle, pour dire ensuite, toujours dans cette première partie, en quoi, à mon sens, il y a eu rupture avec cet israélitisme à partir des années 1980. Dans une deuxième partie, j'évoquerai quelques arguments qui militeraient dans le sens d'une fin du franco-judaïsme. Et dans la troisième partie, qui sera plus brève, je proposerai quelques faits qui montreraient à l'inverse que ce franco-judaïsme existe toujours en certains lieux. Donc, en conclusion, je laisserai la question ouverte, tant il est difficile de connaître cette résultante des dynamiques contradictoires. Première partie, donc, le franco-judaïsme israélite, ses recompositions et la rupture avec l'israélitisme. Par franco-judaïsme, je poserai d'abord ce qu'on en retient le plus souvent dans le sens commun, à savoir l'affinité ou la synthèse qui est posée entre les valeurs de la France émancipatrice et les valeurs portées par la tradition juive, prophétique en particulier. On a assez parlé du patriotisme des Israélites du XIXe siècle et même du XXe siècle. Je rappellerai juste que le slogan adopté en 1809 par le consistoire qui venait à peine d'être créé par Napoléon était « patrie et religion ». Pour compléter cette définition de manière plus analytique, deux points. D'abord, le fait que cette affinité ou synthèse s'est adossée à une redéfinition du judaïsme en termes strictement confessionnels, une croyance, des pratiques, un culte, écartant ainsi toute idée politique, potentiellement politique, d'une nation juive, écartant aussi toute potentialité politique à l'idée messianique du retour à Sion. Cette identité juive redéfinie confessionnellement a été secondarisée par rapport à l'appartenance nationale. Deuxième point pour compléter la définition du franco-judaïsme de manière analytique, le fait que le judaïsme français a été constitué par la réunion de la diversité de ses composantes autour d'une institution centrale ayant le monopole de son organisation et de sa représentation, le consistoire, centralisé à Paris, hiérarchisé comme l'État français lui-même. C'est donc cela, ce premier franco-judaïsme israélite, une affinité posée entre appartenance française et juive, celle-ci étant redéfinie en termes uniquement confessionnels et liée à une institution unique, le consistoire. Donc, de fait, depuis deux siècles, me semble-t-il, différentes strates sont venues recouvrir, transformer progressivement cet israélitisme, sans rompre au départ avec lui. Pour le dire en bref, je dirais que les dimensions politiques et culturelles de l'appartenance juive ont été progressivement récupérées. Juste deux exemples. À la fin du XIXe siècle, la création de l'Alliance israélite universelle, et puis à la fin, un peu plus tard encore, l'affaire Dreyfus, ont été des moments particuliers de récupération partielle de cette dimension politique, mais qui laissait tout entière la légitimité du consistoire comme représentatif d'un judaïsme fondamentalement défini comme confessionnel. C'est pour la fin du XIXe siècle. Je peux détailler plus tard, mais là, le temps est bref, donc je vais aller vite. À la fin de la guerre et juste après la guerre, il y a eu la création de deux institutions. En 1944, le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, pour prendre le nom d'aujourd'hui, et en 1949, Fonds social juif unifié. Manifestement, avec la création de ces deux associations nouvelles, la dimension culturelle et politique de l'appartenance juive est récupérée. Mais avec le CRIF, qui est une fédération d'associations englobant toutes sortes d'associations autour du consistoire, le CRIF reste lié et même subordonné au consistoire, puisque son président est de droit le président du consistoire. En cela, il n'y a pas encore rupture, puisque la prééminence de l'institution consistoriale est préservée. La rupture se dessine en fait à la fin des années 70, notamment lorsque les statuts du CRIF sont modifiés pour rendre l'institution autonome par rapport au consistoire, et puisque maintenant le président est fédérée, et le premier à être élu a été Théo Klein, qui a pris ses fonctions en 1983. Donc rupture avec le franco-judaïsme israélite dans les années 80, en quoi plus précisément? De deux manières, plus particulièrement, enfin globalement, la diversification des manières d'être juif en France et des transformations institutionnelles. Diversification des manières d'être juif en France, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est un peu connu. Il y a différents pôles, manières de se dire juif, soit, c'est pas exclusif l'une de l'autre d'ailleurs, en exprimant une certaine solidarité, un attachement à l'existence d'Israël, soit par un engagement religieux, soit par la militance contre l'antisémitisme, le négationnisme et la mémoire de la Shoah, soit enfin par l'attachement à des cultures juives dans leur diversité. Les transformations institutionnelles sont peut-être un peu moins connues, qui accompagnent cette diversification identitaire. Le fait que le CRIF et le Fonds social juif unifié ont gagné en importance et sont devenus des interlocuteurs de l'État dans les années 80, dans leur domaine propre, chacun dans leur domaine propre, ce qui constitue une première forme de relativisation de la place centrale du consistoire, puisqu'on a désormais trois institutions qui sont des interlocuteurs de l'État majeur. Mais la légitimité même du consistoire va être atteinte et réduite par une série de transformations propres au champ religieux. Des transformations institutionnelles du système consistorial, d'abord, avec l'élection du grand rabbin de France à partir de 1980 pour 7 ans, renouvelable. Bon, après, puisque avant il était élu pour à vie, et le grand rabbin Kaplan a démissionné et il a laissé donc place à un grand rabbin de France désormais élu tous les 7 ans. Autre changement à l'interne du champ religieux, la radicalisation ultra-orthodoxe du consistoire lui-même, qui va à l'encontre de sa tradition ancienne de juste milieu, d'ouverture à toutes sortes de juifs, et enfin le développement d'un pluralisme religieux juif qui conduit, externe au consistoire, je veux dire, qui conduit à une relativisation du consistoire dans le champ religieux même. On a donc dans les années 80 une rupture avec l'israélitisme, mais toutes ces expressions identitaires diversifiées et ces transformations institutionnelles ont pris place dans une société française et un espace politique ouvert, favorable même à ces évolutions, avec les ouvertures aux différences, à la différence juive en particulier. C'est ce pourquoi je prétends que de nouveaux arrangements du franco-judaïsme ont été élaborés alors, qui intégraient la possibilité pour les juifs d'exprimer leur solidarité avec Israël, de développer et de valoriser dans la société française la diversité de leur culture, de développer aussi un certain pluralisme religieux. Alors pourquoi tant de juifs engagés, de connaisseurs de la communauté juive parlent aujourd'hui de fin du franco-judaïsme? Il me semble, à titre d'hypothèse au moins, que ceux qui parlent de fin du franco-judaïsme ont surtout en tête le seul modèle israélite. Et c'est parce qu'on se serait éloigné de ce modèle israélite qu'ils en auraient peut-être la nostalgie. Un peu comme certains républicains d'aujourd'hui auraient une nostalgie de la Troisième République qui représenterait un âge d'or de l'État français. Pour autant, parmi ces juifs qui déplorent ces évolutions, il n'y a pas forcément souhait d'un retour à l'israélitisme originel. Je vais en parler. Plusieurs facteurs sont avancés généralement pour parler de cette fin du franco-judaïsme. Des facteurs spécifiques au monde juif, je l'ai dit, et des facteurs propres à la société française. Parmi les facteurs spécifiques au monde juif, il faut parler des évolutions du consistoire qui sont souvent jugées négatives. Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure. J'ai l'impression que la relativisation institutionnelle face aux deux autres institutions, le CRIF et le Fonds social juif unifié, c'est sa radicalisation ultra-orthodoxe à partir des années 80 et 90 surtout, qui semble à beaucoup comme à l'opposé de sa tradition du juste milieu et qui, en conduisant à des divisions et des contestations, y compris même à l'intérieur du consistoire, mine sa légitimité institutionnelle. Autre élément de cette transformation du système consistorial, de l'institution consistoriale, on passerait d'une ère des notables, une certaine ère de respectabilité du leadership juif, à une autre ère, une ère d'un leadership plus soucieux de son propre pouvoir, de développer sa propre reconnaissance sociale à partir de sa place dans les institutions, alors que c'était l'inverse du temps des Rothschild, des grandes familles comme les Rothschild. Donc un autre leadership juif qui arrive à la tête du consistoire et qui donne cette idée d'une nostalgie, d'une sorte d'âge d'or de l'israélitisme qui aurait représenté une unité perdue ou une cohésion perdue. Pour autant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément souhait de retour à la seule prééminence institutionnelle du consistoire, car on entend le plus souvent le consistoire notamment, à respecter, et les autres institutions, mais surtout le consistoire, à respecter une répartition des domaines d'intervention qui aurait été installée juste après-guerre avec la création du CRIF et du Fonds social. En fait, on a là, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vision historique fausse, puisque cette répartition entre trois institutions des domaines propres ne s'est installée que dans les années 70 et 80. Deuxième type de facteur avancé qu'on peut avancer pour cette fin du franco-judaïsme comme argument, c'est une série de dissonances politiques, soit avec l'État, sa politique, soit avec la société française, ou avec les deux, l'opinion publique. Parmi ces facteurs, le rapport à Israël, le rapport de l'État français à l'État d'Israël aurait changé, d'abord avec une politique moyen-orientale jugée trop pro-arabe, mais après il y a eu des réconciliations, certaines réconciliations sous l'ère Mitterrand, et aujourd'hui, je vais un peu vite, aujourd'hui c'est plutôt une certaine opinion publique, une partie au moins de l'opinion publique, qui est perçue comme hostile à l'État d'Israël. Et cela, ce serait un facteur de défiance de la part des Juifs vis-à-vis de cette société française. Le deuxième facteur de ces dissonances politiques, élément de ces dissonances politiques, c'est les évolutions de la laïcité ou de la pratique de la laïcité plutôt, avec les débats autour de sa définition et de sa pratique qui ne cessent de s'amplifier depuis les années 90 et 2000. On sait qu'ils mettent en question d'abord l'islam et les musulmans, mais ils ont des répercussions sur les juifs pratiquants, mais pas seulement, avec la montée d'une conception plus restrictive de la société, de la laïcité comme stricte neutralité de l'espace public. Autre élément de défiance, de crainte de la part des juifs vis-à-vis de la société française plutôt, mais aussi vis-à-vis de l'État au début, c'est ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, on verra si c'est une bonne définition, des années 2000. Après un certain flottement, un certain moment de flottement dans les années 2000-2002 de l'État vis-à-vis de cette nouvelle forme d'antisémitisme, il y a eu de plus en plus de développement d'une alliance avec un État vigoureusement protecteur des Juifs de France, du judaïsme organisé. Mais il y aurait par contre une certaine rupture avec la société française ou avec une partie de la société française. Bien que les sondages de la CNCDH, le Conseil national de consultatif sur les droits de l'homme, ces sondages montrent que l'antisémitisme n'est pas si fort que cela aujourd'hui, bien qu'il montre la persistance de certains préjugés. On a malgré tout une intensification, une multiplication des agressions et des menaces au quotidien, sans compter les attentats meurtriers des années 2000. L'État semble bien ne pas être assez fort pour combattre ces passions de la société. La fin d'un État fort serait donc en parallèle avec la fin d'un judaïsme unifié autour d'un consistoire respecté, respectable, ayant une vraie légitimité. Ce serait cette situation incertaine autour de ce nouvel antisémitisme qui réveillerait aujourd'hui, mais aujourd'hui seulement, la mémoire de Vichy. Souvent, quand je pose la question, à votre avis, fin du franco-judaïsme, on me dit, mais Vichy, bien sûr. Or, juste après Vichy, il n'y a pas eu de défiance à ce point-là exprimée par les Juifs de France. Il y a eu au contraire un renouvellement de l'alliance ou de la confiance avec la France résistante qui a gagné, qui a vaincu, bien sûr. Donc c'est plutôt la mémoire de Vichy qui réapparaît au cours des années 70 et 80, qui est travaillée, apaisée, je dirais même, avec, on pourrait dire, le discours du président Chirac en 1995, la reconnaissance qui va jusqu'à la reconnaissance des justes qui ont sauvé les Juifs pendant la guerre, plus récemment les restitutions qui ont été faites à la suite de la commission Matteoli. Donc il y a la mémoire de Vichy a été travaillée, apaisée, je dirais, jusqu'à nos jours. Mais c'est aujourd'hui l'émergence de ce nouvel antisémitisme qui serait comme une sorte de second choc, et qui ferait émerger cette mémoire de Vichy aujourd'hui problématique. Oui, je vais bientôt terminer. Voilà. Juste l'autre élément, pour terminer, du contexte global qu'il faut évoquer, c'est le fait qu'aujourd'hui, le patriotisme, l'adhésion à la France d'une manière générale, mais pas seulement pour les Juifs de France, serait problématique pour beaucoup de citoyens français. En vis-à-vis d'un État qui serait lui-même affaibli pour toutes sortes de raisons, construction européenne, mondialisation, etc. Donc, on aurait une fin de la croyance au progrès qui s'appliquerait à la France elle-même, mais aussi à un judaïsme qui ne saurait plus s'adapter et s'ouvrir aux autres. Pourtant, ma troisième partie qui sera brève, il existe encore des lieux où se recomposerait ce franco-judaïsme, où persisterait en tout cas ce franco-judaïsme. Quand je pose la question, parfois on me dit, où est-ce que ça existe ? Ah, peut-être à Ashdod, en Israël. Ashdod, c'est une ville où beaucoup de Juifs français vont habiter quand ils partent en Israël, et on entend français dans la rue, on parle français dans la rue. Bon, c'est peut-être une anecdote à creuser d'une certaine manière. Mais il me semble plus important de souligner que c'est dans les milieux du judaïsme libéral et ma sortie, conservative, on dit en américain, que se développerait, que s'exprimerait le mieux ces ouvertures à la société française, ces adaptations, cette idée de l'adaptation du judaïsme français toujours à la modernité, d'une part, au plan idéologique. D'autre part, le fait que dans ces congrégations du judaïsme libéral ou ma sortie, on retrouve beaucoup d'universitaires, beaucoup de ces juifs d'État appelés comme tels par Pierre Birnbaum, qui ont appartenu ou qui appartiennent encore au grand corps d'État, comme le Conseil d'État en particulier. On retrouve dans ces congrégations libérales et ma sortie aussi beaucoup de familles de donateurs, des familles traditionnelles des donateurs de la communauté juive, qui ont déserté une certaine synagogue, la synagogue de la Victoire consistoriale, et qui sont allées chez les ma sortie libéraux. Voilà, donc, en conclusion, il est difficile d'évaluer la résultante de ces dynamiques contradictoires entre affaiblissement d'un côté du franco-judaïsme et recomposition. Il est clair que le projecteur est plutôt braqué sur ce qui se défait plutôt que sur ce qui se perdure et se recompose. Pour toutes sortes de raisons, il est braqué ainsi, peut-être à cause de la visibilité, de la gravité des drames que sont les attentats meurtriers ou les départs vers Israël et d'autres destinations, mais aussi peut-être à cause des discours assez forts, assez peut-être véhéments de certains responsables institutionnels juifs qui accentuent les inquiétudes de la communauté juive, l'expression publique de ces inquiétudes, qui accentuent peut-être aussi paradoxalement, l'affaiblissement de l'État en se plaçant sur un pied d'égalité vis-à-vis du chef de l'État. Je parlais des dîners du CRIF notamment. Voilà pour conclure.